Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Avec ce texte de l'apôtre Paul sur le baptême, je voudrais examiner avec vous aujourd'hui la question du baptême des nouveau-nés. Ce sujet a déjà fait couler beaucoup d'encre. De nombreuses publications ont paru discutant la légitimité du baptême des enfants. Nous ne voulons pas ici évoquer ni même imiter les longues dissertations de théologiens. Elles sont incompréhensibles pour qui n'est pas accoutumé au langage trop technique des savants et des philosophes. Nous voulons simplement nous placer du point de vue de l'étudiant moyen de la Bible ou du simple lecteur de la Bible qui se pose cette question à laquelle la Bible seule devra répondre. Le baptême des enfants est-il biblique? La forme de cette question est importante, car à moins de la poser de cette manière, au sujet de toute pratique religieuse, l'unité des croyants en Christ ne sera jamais qu'une rêverie. En réponse à cette question, le lecteur de la Bible s'aperçoit que le Nouveau Testament ne contient aucune trace de la pratique du baptême des enfants et que cette pratique semble même opposée aux principes bibliques. Le livre des Actes des Apôtres est pourtant riche en cas de conversion, pour la plupart même particulièrement détaillé, mais il ne contient aucune allusion directe ou indirecte au baptême d'enfants. Comment justifie-t-on alors le baptême des enfants, pratique qui est quand même largement répandue? On invoque en général la doctrine du péché d'origine, ou bien le fait que l'appartenance du nouveau-né, de par sa naissance naturelle, à une famille chrétienne, ou du moins à un père ou à une mère chrétienne, constitue un signe pour l'Église, en vertu d'une certaine solidarité baptismale. Le baptême serait donc avant tout le signe de l'incorporation du sujet à l'Église. Examinons brièvement ces deux explications. D'abord, la doctrine du péché d'origine. Selon cette doctrine, l'homme naît déjà souillé dans son âme, victime de la faute d'Adam. Le baptême aurait donc pour but initial d'effacer ce péché. À l'appui de cette doctrine, on cite souvent un texte de la lettre de Paul aux Romains, où l'apôtre déclare que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Tout le chapitre est une dissertation sur ce thème. On remarque d'abord que ce passage ne fait nullement allusion aux enfants. Il parle des hommes. « Tous ont péché », dit Paul. L'homme, en venant au monde, trouve une humanité pécheresse de laquelle il est solidaire. Il subit son influence, ses enseignements, et devient coupable à son tour. Il répète pour son propre compte la fondamentale rébellion contre Dieu. La mort atteint tous les hommes, mais non pas la culpabilité d'Adam. C'est l'héritage d'une conséquence et non d'une faute. Le prophète Ézéchiel disait déjà « Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël ? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. » De toute façon, il y a tout un mouvement révisionniste au sein de l'Église romaine qui n'accepte plus la conception traditionnelle du péché originel. Par exemple, selon le jésuite Henri Rondet, le péché originel serait l'ensemble des péchés des hommes de tous les temps. Il n'est donc plus question d'une sorte quelconque de péché, mais plutôt d'un état. La pureté des enfants n'est jamais mise en cause dans les évangiles. Jésus ne reconnaît-il pas la pureté d'âme des enfants lorsqu'il déclare « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Pourquoi donc les baptiser? La seconde explication que l'on donne à ce rite est qu'il constitue le signe de l'incorporation du sujet à l'Église. Or, le baptême est plus qu'une incorporation passive. C'est une participation, une union consciente et volontaire à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection du Christ. C'est ce que souligne le texte que nous avons cité au début de cette causerie. Nous avons été baptisés en sa mort, ensevelis avec lui, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Dans le même contexte, l'apôtre ajoute « Nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. » À l'église des Galates, il rappelle « vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Tout cela peut-il se faire sans intelligence, sans compréhension, sans foi, sans décision personnelle préalable, comme c'est le cas pour un enfant de 8 jours? Il ne participe à rien dans ce rite, il subit, souvent même il proteste. Toute la valeur du baptême réside non pas dans le rite même, mais dans l'attitude du baptisé, car le baptême est essentiellement un acte de foi individuel. Il est vrai, raisonne-t-on, que le baptême d'un nouveau-né et celui d'un adulte se font dans des circonstances différentes et présentent des caractéristiques différentes. Cela revient à dire qu'il y a 2 baptêmes. Les apôtres n'en connaissaient pourtant qu'un seul. Ce seul baptême est aussi appelé une nouvelle naissance, d'après les paroles de Jésus qui avait déclaré « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ». Cette nouvelle naissance implique naturellement la mort spirituelle de l'homme dans ses péchés, état qui nécessite sa renaissance spirituelle par le baptême et dans l'esprit. Vu sous cet aspect, le baptême d'un enfant semble encore plus paradoxal. C'est en effet lui accorder un très court délai pour mourir spirituellement que de le supposer en état de renaître spirituellement après 8 jours de vie physique. Je viens d'examiner cette semaine plusieurs options du nouveau catéchisme français pour les enfants de 8 à 10 ans. Ce catéchisme est d'ailleurs très très bien fait. C'est un modèle de pédagogie. Il a même l'ambition d'être un catéchisme biblique. Seulement, le nouveau catéchisme, étant un catéchisme catholique, il se devait de présenter les différents points de doctrine traditionnels. En cela, il doit quitter le terrain strictement biblique, et c'était dommage, pour s'appuyer sur des traditions humaines. La leçon traitant du baptême est typique. Le baptême est d'abord présenté comme un acte de foi. On ne précise pas de quelle foi il s'agit, ou qui doit exprimer cette foi. À qui peut-on donner le sacrement du baptême, demande le manuel à l'élève. Réponse, on peut donner le sacrement de baptême à celui qui croit en Jésus et veut devenir son disciple, et aussi à un petit enfant dont les parents sont disciples de Jésus. Le catéchiste ici intervient pour expliquer que le moment où le prêtre fait couler l'eau sur le front du nouveau-né, c'est pour lui comme une nouvelle naissance, le commencement d'une vie nouvelle dans une famille, l'Église, où il vit dans l'alliance avec Dieu et tous ses frères. Le manuel ajoute que nos parrains et marraines ont affirmé à notre place « Je crois au Père, je crois en Jésus-Christ et je crois à l'Esprit-Saint ». C'est vraiment paradoxal, comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, car la doctrine de la nouvelle naissance a été enseignée par Jésus en vue de cet état de souillure par le péché, qui ne peut se développer que pendant l'âge adulte, et qui concerne ceux qui reconnaissent leur besoin d'être purifiés, changés et transformés, et régénérés, pour utiliser un terme de l'Écriture. Comment est-il possible d'envisager la régénération d'un enfant de 8 jours? Ainsi présenté, le baptême est encore un acte quasi magique qui se passe de la participation du sujet et produit sur lui et en lui des effets qui ne s'exprimeront qu'à l'âge de raison. Mais dans les Écritures, partout où il est question du baptême, nous sommes en face de personnes adultes, croyantes et repentantes qui manifestent par le baptême leur foi en Christ, c'est-à-dire leur totale confiance en la puissance rédemptrice de sa mort et de sa résurrection. Jésus n'avait-il pas dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Et ce salut se traduit par la rémission des péchés et par l'incorporation par Dieu à l'Église du Christ, du nouveau chrétien. C'est ainsi que Saul de Tarse, avant de devenir Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, s'entend dire « Que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur ». C'est ainsi encore que les Juifs de Jérusalem reçoivent le commandement de se repentir et de se faire baptiser au nom du Christ pour le pardon de vos péchés. Le livre des Actes nous rapporte que ceux qui crurent à la prédication de Philippe en Samarie se firent baptiser hommes et femmes. Y a-t-il quelque allusion dans tous ces cas au baptême des enfants? Comme il aurait été facile aux rédacteurs du livre des Actes des Apôtres de nous dire comme femmes et enfants furent baptisés, pour insister, et c'est là le but de ces détails, sur le succès évident de la prédication de l'évangéliste. Mais le témoin nous dit que ceux qui se firent baptiser sont ceux qui crurent. C'est pourquoi il ne mentionne que les hommes et les femmes. Toutes ces considérations expliquent le mouvement de plus en plus important qui se manifeste au sein du monde chrétien en faveur de la suppression du baptême des enfants. Mais la tradition humaine ne l'emportera-t-elle pas sur la voie de la Bible et celle de la conscience? De toute façon, chers amis, il appartient à chacun d'entre nous de décider pour soi. Si nous avons pris conscience de ces choses, sérieusement, ne faut-il pas réviser nos pensées sur cette question, sortir de notre passivité et corriger ce qui peut encore l'être? En tant qu'individus responsables devant Dieu, si nous comprenons à présent que le baptême que nous avons reçu en tant que nouveau-nés n'était pas un baptême, mais un rite inventé par les hommes et étranger à la volonté de Dieu, ne devons-nous pas envisager de venir au vrai baptême, celui qui constitue un engagement personnel, une décision personnelle pour Christ, une expression personnelle de notre foi? Si la question de votre baptême vous préoccupe, n'hésitez pas à nous écrire. Nous serons heureux de vous envoyer gratuitement une documentation complète qui vous aidera à déterminer pour vous-même quelle est la volonté de Dieu à votre égard.